Chaque fin de semaine, les rendez-vous de l'Office du Tourisme du Pays d'Angoulême sur Attitude.
Bonjour et bienvenue sur Attitude. On se retrouve comme chaque fin de semaine dans votre émission de l'Office du Tourisme du Pays d'Angoulême. Enrico est dans les studios. Il va nous présenter notre invité de cette semaine ainsi que le thème abordé. Bonjour Enrico.
Salut mon petit lapin, tu vas bien ?
Écoute, toujours, toujours. Donc aujourd'hui...
Aujourd'hui, une grosse exposition. C'est l'un des événements majeurs sur Angoulême et son pays. Et bien sûr, sur un rayonnement même un peu plus important puisqu'on est sur du national ou du international. Mais vous savez donc que naturellement, on va parler du musée de la bande dessinée et de cette exposition qui a commencé depuis quelques temps et qui finira le 6 novembre 2022, donc profitez-en au maximum. C'est de Popeye à Persépolis et nous avons la conservatrice et directrice du musée de la bande dessinée, si je dis pas de bêtises, Anne-Hélène Hoog. Bonjour.
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 Anne-Hélène, on va l'appeler Anne-Hélène pendant toute l'émission, on va être plus à l'aise, hein, bien sûr. On va parler de cette grosse exposition de Popeye à Persépolis. Les gens peuvent être étonnés qu'on parle de Persépolis, qui n'est pas forcément au départ dans l'esprit des gens une BD, et pourtant... C'est une bande dessinée, mais on le connaît plus pour le dessin animé, également pour Popeye, excusez-moi. Et donc, c'est un lien entre la bande dessinée et le cinéma d'animation qui va vous être proposé tout au long de cette exposition. Et j'aimerais que vous nous parliez un peu, au départ, de façon générale, du thème et de ce choix sur le lien entre l'animation et la bande dessinée.
Oui, effectivement, cette exposition, c'est une exploration des liens entre la bande dessinée et le cinéma d'animation. Et on l'a fait surtout parce que quand on est à Angoulême, c'est un sujet qui est incontournable, étant donné que on a tellement d'auteurs qui travaillent et d'entreprises et d'écoles qui travaillent dans les secteurs de la bande dessinée, du cinéma d'animation et du jeu vidéo.
Le lien était naturel.
Il était naturel de le faire. Et puis aussi parce que beaucoup de personnes ne savent vaguement ici que ces choses sont là, que ces activités sont là, mais ne sont jamais au quotidien en contact avec cette réalité de la vie qui a été quand même, je dirais, la chance économique de la région. Et parce que moi qui ai bien connu Angoulême et Cognac, puisque j'ai grandi à Cognac dans les années 70, c'était dur, les temps étaient durs. Donc je pense que c'est important aussi de voir à quel point il y a là un trésor de créativité,
et
un trésor technique.
Et
les villes changent, exactement. Il y a tous ces étudiants qui sont présents à Angoulême et qui animent cette ville de toute la semaine. Moi, je trouve que c'était passionnant de pouvoir nouer d'une manière très étroite, en fait, le propos du musée et l'environnement dans lequel ce musée existe.
Et alors, ce travail s'est fait comment ? Vous aviez des fonds ? Parce que vous, naturellement, musée de la bande dessinée, vous avez plutôt des planches et des choses comme ça qui sont proposées. Le lien avec tout ce qui va être cinéma, vous l'avez fait comment ? Avec vous avez collaboré.
Alors effectivement, pour les planches originales, on a on a un fonds qui va dépasser les 18 000 planches originales. C'est le premier fonds de bande dessinée en Europe et le second fonds au monde. Je pense que ça, il faut le dire souvent.
Vous avez raison.
Donc on a de quoi travailler. Et quand je parle des planches originales, je ne mentionne même pas là les imprimés, où on a également un fonds très important. Donc c'est avec les collections patrimoniales de la cité qu'on a pu monter cette expo. Et puis bien sûr, rester à rentrer dans l'univers du cinéma d'animation et de se concentrer sur un genre au sein du cinéma d'animation qui est le dessin animé, hein, qui n'est pas le stop motion ou d'autres techniques. Donc le dessin animé, eh bien c'était retracer cette histoire en mettant en rapport la bande dessinée avec justement les films d'animation qui ont été liés à la bande dessinée, mais pas tellement dans l'idée telle bande dessinée adaptée au cinéma ou tel dessin animé adapté en bande dessinée, mais plutôt de dire qu'on allait regarder pourquoi finalement aujourd'hui dans le monde entier des personnes, tout le monde connaît Popeye, connaît Betty Boop, connaît Astérix, connaît Lucky Luke.
Félix le Chat,
sommes,
tout ça.
Félix
même,
le
même
Chat,
pour les jeunes, c'est ça
voilà.
Qui est dingue, parce que c'est un vieux
et dessin. Et ça revient,
animé.
Ça Exactement. Revient aujourd'hui à la télévision et on voit toutes ces nouvelles versions, ces réinterprétations des personnages. Donc je pense que nous sommes loin d'en avoir fini avec les héros de bande dessinée dans le cinéma d'animation sur notre écran quotidien et sur sur nos portables, parce que évidemment ça va aussi
le portable aujourd'hui, oui, aujourd'hui. Naturellement c'est un nouvel axe pour les plus jeunes, et on peut pas l'oublier, le portable et tous les sites de streaming permettent d'avoir cette lecture et de faire connaître les anciennes BD. Vous parliez de BD qui devenaient des dessins animés et de dessins animés qui devenaient des BD. Dans ce sens-là, ça existait également ?
Oui, tout
alors,
à
moi,
fait.
Alors, sur le coup, j'ai pas de référence.
Betty Boop a commencé comme film d'animation et est devenu une bande dessinée. Mickey, c'est pareil. On a eu Steamboat Willie, bien sûr, mais en fait,
d'accord,
il a été
premier,
connu.
Oui.
On a commencé vraiment à vulgariser Mickey dans la bande dessinée une fois que les dessins animés de Mickey ont été connus. Après, vous avez d'autres personnages qu'on va voir apparaître sur le champ, dans le champ de la bande dessinée, parce que la règle d'or, en fait, bah, comme pour tout, n'oublions pas que ce sont des économies aussi, hein, l'édition de la bande dessinée et du cinéma d'animation, la règle d'or, c'est ce qui marche. Et donc, à partir du moment où quelque chose marche,
on
il va être décliné dans toutes sortes, sur toutes sortes de supports et dans différentes disciplines artistiques. Et c'est ça qui m'intéressait, moi, c'était en fait le succès. Comment on était arrivé à des succès pareils. Et donc, quand j'ai conçu l'exposition, j'ai fait appel à des spécialistes du film d'animation, comme Serge Bromberg de Lobster Film, qui est spécialisé dans la restauration et qui est quelqu'un avec qui j'avais envisagé un projet sur les frères Fleischer, les studios des frères Fleischer, qui avaient produit Superman, qui avaient créé Superman,
d'accord,
Betty Boop et Popeye.
Les vieux ou les plus récents? Parce que je sais que pendant l'exposition, on voit un vieil épisode de Superman.
Ceux du début de la guerre, c'est-à-dire 1940-41.
Ceux qu'on voit dans l'exposition.
Voilà,
d'accord.
C'est les plus beaux.
Ah, ils sont magnifiques. Moi, j'ai bloqué.
Il faut redécouvrir ces films. Et puis, il y a, donc, pour reprendre mon propos.
Oui, excusez-moi.
Donc, j'ai fait appel à Serge Bromberg et j'ai fait appel à Pascal Vimnet, qui est enseignant à l'EMCA, l'École des métiers du cinéma d'animation, qui est un historien du film d'animation, grand connaisseur de bande dessinée et d'histoire du cinéma en général. Et ils sont venus à mon secours, en fait, pour me permettre de monter ce projet, de faire aussi une petite publication et d'aller en m'appuyant sur leurs connaissances et grâce à eux et en réfléchissant avec eux, d'aller vers une question qui m'intéressait, qui était celle de l'aventure humaine qu'avait été en fait César. C'est-à-dire la bande dessinée et le cinéma d'animation, dans leur histoire, dans leur développement, ce sont des entreprises d'une audace incroyable. Ce sont des aventures humaines, vraiment, avec des personnes qui ont tout risqué, qui ont tout donné pour pouvoir créer, pour pouvoir produire, et qui ont dû des fois ramer, comme on dit aujourd'hui, pendant des années, avant de pouvoir réussir à trouver un producteur, etc. Donc l'histoire de Superman, c'est ça, c'est plusieurs années avant que Superman ne soit édité par DC Comics. L'histoire du film d'animation, les studios des frères Fleischer ou Emile Cole ou Emile Reynaud qui ont été les précurseurs, les grands fondateurs de la discipline de l'animation, de l'art de l'animation. Ce sont des gens qui ont passé des années dans une grande anxiété.
C'était les débuts. C'est ce que vous disiez. On est vraiment sur l'idée d'équipe, puisque vous parlez d'hommes et d'humains.
Oui, oui.
On est souvent dans un collectif, hein. On est rarement seul. Après, bien sûr, il y a la prise de décision du responsable, et c'est l'audace de certaines personnes qui ont fait avancer les projets. Le cinéma d'animation, pour vous, il commence à quel moment? Quand je parle de...
Alors,
de
on pourrait
tout
dire
public,
1898, on a les pantomimes lumineuses d'Émile Reynaud. Et je pense que là, vraiment, on est sur le début de l'image animée, de l'image qui bouge. Et il a inventé le praxinoscope, par exemple,
oh,
qui
purée.
Est un jouet que tout le monde connaît. Il a inventé le zootrope. Donc, ce sont avant tout des inventeurs, des gens qui ont une veine artistique, mais en même temps une veine scientifique, une veine de curiosité. Et donc, il se lance là-dedans et il va au musée Grévin pendant 8 ans, devant en tout 500 000 spectateurs, dérouler avec son théâtre optique des pantomimes lumineuses qui vont être des inspiratrices puissantes pour ceux qui vont créer vraiment le cinéma d'animation.
Voilà, bah, pour la suite. Donc, c'était vraiment... Alors, rappelez le nom du monsieur, c'est...
Émile Reynaud.
Émile Reynaud, voilà. Pour les gens qui veulent aller, puisque maintenant, on peut trouver des vidéos un peu partout. Donc, on peut gratter. C'est ce qu'on disait. Les jeunes sont plus forts que nous à ce jeu-là.
Oui,
pour
vous avez sur YouTube. Vous pouvez voir beaucoup de choses. Vous allez voir le Coco de Clown des frères Fleischer. Vous allez voir les petits films d'Émile Cole. Vous pouvez vraiment observer tous ces débats, tous ces débuts du cinéma, parce qu'ils sont maintenant en ligne. Ils font partie du patrimoine cinématographique dans le domaine de l'animation.
Et sur le début ou la fin de l'exposition, on pourra voir certains, je ne sais plus comment ça s'appelle, ces trucs qui tournent.
Les rotoscopes.
Les rotoscopes, voilà, on en parlera également. Il y a plusieurs thèmes tout au long de cette exposition. Vous verrez, c'est sous forme d'alcôve et on va vraiment passer d'univers en univers. On va vous expliquer ça sur sa deuxième partie d'émission. On va faire une petite coupure musicale et publicitaire. On revient toujours avec Marie-Hélène d'ici quelques minutes.
Anne-Hélène,
voilà. Pourquoi Marie-Hélène? Anne-Hélène, elle a eu raison de me reprendre, vous avez raison. Pour cette exposition à bande dessinée et cinéma d'animation de Popeye à Persepolis jusqu'au 6 novembre 2022 au musée de la cité Quai de la Charente sur Angoulême. N'hésitez pas à venir voir cette exposition 05 45 38 65 deux fois pour les gens qui voudraient avoir des infos. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie d'émission après une petite coupure publicitaire.
Chaque fin de semaine, les rendez-vous de l'Office du Tourisme du Pays d'Angoulême sur Attitude.
Sur Attitude, on se retrouve pour la seconde partie de l'émission de l'Office du Tourisme du Pays d'Angoulême. Je vais laisser la parole à notre Enrico pour rappeler notre invité du jour et le thème abordé.
Toujours, bien sûr, avec Anne-Hélène Hougues qui est présente avec nous pour cette exposition et ce grand moment. On n'oublie pas, bien sûr, parce que ça, on va pas l'oublier, hein, en marge de cette exposition exceptionnelle qui a lieu jusqu'au 6 novembre. On a toujours le musée d'Angoulême avec l'exposition permanente. Il y a toujours ces propositions en marge, et il y a également des animations, il y a plein de trucs, hein. Faut aller sur les agendas du site internet du musée et on peut vraiment avoir plein d'animations qui sont proposées. Il y a vraiment tout un calendrier et un agenda qu'on vous invite à aller regarder sur le site. Alors je vais essayer de pas de dire bêtises si je le trouve pas, www.citebd.org pour les gens qui veulent récupérer toutes ces informations. On continue bien sûr de parler de Popeye à Persepolis. Alors je connais pas le dessinateur de Popeye, j'allais dire. Autant je connais Marjane Strappi, quand je connais pas le dessinateur de Popeye. Et vous l'avez pas non plus, mais c'est pas grave.
Non, si je l'ai, mais c'est parce que parlait de
nos problèmes de mémoire.
Nos absences de mémoire, ça va me revenir tout à l'heure. Mais
voilà.
C'est,
alors dans les trucs très drôles. J'ai appris, alors ça m'a, là sur le coup c'est la mémoire qui m'est revenue lors de cette exposition, comme on passe d'alcôve en alcôve et on
Il s'appelle Segar.
Segar, voilà.
Mais des fois, c'est difficile de sortir comme ça les noms des beautés.
C'est clair. Et Popeye s'appelait Mathurin tout au début quand on
en France.
France.
Oui.
Et donc ça, j'ai eu des souvenirs parce que ma maman avait récupéré des vieux Mathurin. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, quand j'étais petit, c'est ça. C'était pas Popeye, c'était Mathurin. Et donc, j'ai éclaté de rire et je me suis dit, c'est quand même drôle d'avoir un retour de mémoire, comme ça, un flash pendant l'exposition. On va, comme on vous disait, le long de toute cette exposition, passer d'alcôve en alcôve. Il va y avoir plusieurs thèmes. On commence bien sûr naturellement par le début du cinéma d'animation sur des dessins animés en noir et blanc. Et on est sur fin 19e.
Alors, il y a des dessins animés en couleur. Les premiers, les pantomimes lumineuses sont en couleur parce qu'elles sont peintes. Ce sont des dessins sur des transparents, des sortes de transparents,
de
des feuilles de calque qui sont peintes. Donc, ça, c'est pas en soi le problème. Le problème va être la rapidité, en fait, du défilement et de la production.
Ouais.
Et puis, produire l'image.
Oui.
Produire des dessins comme ça, un à un, en faisant juste une petite variation pour avoir ce rythme, ce mouvement, c'est très long. Donc, vous imaginez bien qu'il faut avoir les moyens de travailler aussi longtemps et de vivre en même temps, ce qui n'était pas facile. Donc, les premiers créateurs sont des gens qui ont d'autres métiers à côté ou d'autres expériences. expérience professionnelle à côté. Ça a été longtemps le cas d'ailleurs. Ça reste le cas pour certains dessinateurs de bande dessinée, par exemple, qui gagnent plus leur vie avec la publicité ou l'affichage ou le graphisme qu'avec...
Oui, dans les magazines, voilà, ils vendent plus facilement.
Il faut comprendre que ce sont des métiers où pas tout le monde trouve tout de suite sa place et rencontre son succès ou son producteur ou son éditeur.
Donc ça, voilà, c'est donc début de l'histoire avec ces premiers dessins animés collés bien sûr au BD et aux premières BD aussi, puisqu'on est tout au début aussi de la BD, hein. Puisqu'en fait, ça se chevauche assez rapidement.
Ça se chevauche parce que il y a tout simplement, et c'est pour ça qu'il est très important de comprendre pourquoi on a fait l'exposition, parce qu'il y a un intérêt économique et technique à produire de plus en plus vite, de moins en moins cher pour de plus en plus de personnes.
Donc oui, c'était...
Ça va être la diffusion, et c'est pour ça que ce sont des cultures populaires. Ce sont des cultures de la rue. Le cinéma d'animation commence dans les fêtes foraines, dans les petites fêtes, dans les petites les salles de communes, des endroits qui sont dans la rue, dans les balles populaires. Ce sont des cinématographes ambulants qui vont comme ça, qui achètent d'ailleurs la bande de films au maître.
Ah d'accord, ok.
Il faut voir que ça peut donc, parce que voilà, donc si l'histoire elle tombe pas pile, si ça se finit pas, si votre maître ne correspond pas, vous voyez, ce sont des choses, mais les gens étaient absolument ravis. Enfin, c'était un truc extraordinaire de voir des images bouger. C'est le rêve de l'humanité de voir un dessin prendre vie, parce qu'on devient un peu Dieu quelque part dans cette affaire.
Oui.
Il y a une magie infinie que nous connaissons encore. Alors nous sommes davantage blasés parce que nous avons toute cette possibilité de convoquer ces images à volonté. Les machines vont plus vite. On n'a pas le temps vraiment d'admirer en fait, ou de se poser la question de ce qu'on est en train
de
regarder.
C'est ça, c'est de se poser la question.
Voilà.
Vous avez raison.
Mais disons que en tout cas, le cinéma d'animation comme la bande dessinée, c'est des choses qu'on regarde dans les. Par exemple, la bande dessinée, elle est dans les kiosques, elle est dans les rues, elle est les kiosques à jour. Nous grandissons avec la presse, et avec la presse, il y a la bande dessinée.
Et puis on se les passe, on se le prête.
Alors on fait ça en public, on fait ça dans la rue, dans les cafés, on peut faire ça à plusieurs, en famille, le soir à la maison, lire des fanis, comme faisaient les Américains, ou alors les périodiques pour enfants qui vont être, parce que la bande dessinée en France, c'est au départ uniquement pour la jeunesse, c'est très censuré, très observé, et on lit ça en groupe, à l'école, enfin tout le monde lit la même chose, et c'est ça qui est important, c'est qu'à un moment, tout le monde lit la même chose. Et ça fait un langage commun, et ça fait des références communes, ça fait une culture commune, qui en plus est héritée d'une culture ancienne, d'une culture d'images, de contes de fées, de romans populaires, etc.
Et d'histoire orale,
voilà,
que l'on pose.
Et d'histoire orale, et puis d'images qu'on voit dans les églises aussi.
Aussi, vous avez raison.
Voilà, qui font partie de notre histoire visuelle, et de notre culture visuelle. Et le cinéma d'animation ne fait pas moins que ça, c'est-à-dire qu'il va créer, il va innover, il va inventer, il va imaginer, mais il est fait au départ par des personnes qui font aussi de la bande dessinée, qui s'intéressent au dessin, qui communiquent avec le peuple. La presse, c'est important. Le cinéma d'animation, c'est un truc qu'on va vous montrer. Enfin, les gens font la queue pour aller sous les tentes, voir on tend dans les cafés, on va tendre un drap sur le mur pour projeter les images. Enfin, c'est un monde extraordinairement populaire, extraordinairement heureux, je dirais, sentimental même, parce qu'on s'attache aux personnages, on les aime, ce sont nos héros.
On les attend quand c'est des épisodes,
voilà.
On attend la suite.
Voilà, et l'intelligence, en fait, de toute cette industrie qui va gravir et grandir autour de ce... Enfin, graviter et grandir autour de ce monde-là, c'est de comprendre qu'on peut décliner ça en publicité, qu'on peut décliner ça en jouets, qu'on va mettre ça sur des vêtements. Alors, vous allez avoir des personnages qui vont être pour Pepsi-Cola, pour les
Kleenex, etc. On va dire Coca-Cola, Cola-Cola,
voilà,
chacun
va avoir son objet littéraire, son objet publicitaire, je veux dire. Et si vous voulez, ça crée une façon de... Tout le monde reconnaît tout de suite. l'image. Et c'est ça dont on veut parler. Il y a eu des avancées techniques.
Et on fait partie de la même tribu.
Et on fait partie, exactement, on a les mêmes codes, on peut se parler même en ayant des langues différentes. On peut partager ces images qui, de plus en plus, vont se répandre à travers le monde. Mickey Mouse, c'est un succès incroyable. Popeye, n'en parlons pas. Superman, bien sûr. La démonstration que nous faisons dans l'expo, c'est que Superman va être décliné dans chaque pays pour devenir un super-héros local, par exemple, qui s'appuie aux traditions locales ou qui répond aux situations politiques.
Oui. Sur des vieilles BD, voilà. J'ai vu ça pour toute la partie indienne, ça s'appelle Caliman.
Il y a plein de trucs comme ça qui sont rigolos. La version chinoise, c'est passionnant parce que c'est décliné vraiment partout et du coup tout le monde les connaît. Alors aujourd'hui, si vous voulez, notre culture globale, elle nous dit que il n'y a pas un endroit dans le monde où vous n'allez pas trouver un t-shirt, une référence à Superman, aux Avengers, dans le street art, dans les publicités géantes sur les immeubles, sur les affiches de cinéma.
Et même avec des artistes contemporains comme Hero, qui reprend The Silver Surfer et tout ça.
La figuration narrative, c'est essentiellement intéressé au pop art, c'est essentiellement à tout ce qui était une façon de regarder différemment la manière dont la société consommatrice de consommation fonctionnait. Mais c'est ce qu'on voit aussi dans le film d'animation comme dans la bande dessinée, c'est-à-dire la naissance d'une contre-culture, la naissance de quelque chose qui va nous parler d'autre chose, qui va nous dire qu'on peut regarder aussi ces personnages, ces héros d'une autre manière que l'Amérique triomphante ou l'Occident triomphant ou tout ce qui peut être trop triomphant et trop consommateur ou trop moderniste va trouver en fait ses détracteurs. Par exemple, les Shadocks de Jacques Rouxel, c'est exactement une histoire de contre-culture. Mr. Magoo, c'est ça aussi.
Que l'on voit dans l'exposition. Voilà.
Nous sommes héritiers de cela. Et on finit en fait à l'exposition, on a des objets, on a des extraits de films, on a des planches, on a des livres, enfin on voit à quel point tout ça a existé d'une manière très concrète dans notre quotidien. La télévision va bien sûr contribuer à l'explosion du dessin animé. Avant ça, on pouvait regarder des films à la maison. Pathé va créer des petits projecteurs, comme ils vont faire des caméras pour que les enfants facilement puissent visionner leur films. Voilà. Et aujourd'hui, des auteurs contemporains de bande dessinée s'intéressent en fait à des modes anciennes de production du dessin animé et revisitent en fait toute cette histoire du dessin animé et de la bande dessinée pour réinterpréter, pour créer des choses nouvelles.
Donc voilà, on va avec vous pouvoir retracer tous ces univers. On avait bien sûr pas beaucoup de temps pour vous parler de tout, mais bien sûr, on aborde les mangas lors de l'exposition.
Bien sûr.
On n'oublie pas, on aborde les mangas. On va aborder également des séries cultes pour les gens plutôt de notre âge, comme les Simpsons et des choses comme ça.
La production angoumoisine, avec Prima Linea, Peur du Noir et la fameuse invasion de la Sicile par les ours.
On va parler également du cinéma SF des années 70 avec René Laloux et des choses comme ça.
Oui, Roland Topor, extraordinaire.
C'est juste magnifique. Si vous voulez, vous allez voir des dessins. La planète sauvage est l'un des plus beaux films.
Les Maîtres du Temps, oui, bien sûr.
Ah, c'est beau, voilà. Vous allez retrouver tous ces univers et il y en aura vraiment pour tout le monde, pour les plus jeunes, pour les moins jeunes, mais vous avez vraiment une histoire complète qui va vous être proposée sur cette exposition extraordinaire que vous avez au musée de la bande dessinée et cinéma d'animation de Popeye à Persépolis. N'hésitez pas, c'est jusqu'au 6 novembre. Vous pouvez la regarder alors je vais pas dire de bêtises, vous me rattrapez si je dis une bêtise, du mardi Au dimanche. De 10h à 18h, mais le dimanche que de 14h à 18h.
C'est exact.
Et après, premier dimanche du mois, si vous voulez en profiter et venir à 150, vous pouvez, le premier dimanche du mois. C'est souvent gratuit, donc il faut en profiter, sauf l'été,
absolument,
je crois.
Absolument, je pense qu'il faut en profiter, parce que c'est un moment aussi où on peut être...
La culture
à plusieurs,
pour tous,
on peut
et ça c'est important.
C'est très important.
Donc voilà, des jolis moments. N'hésitez pas à aller sur le site www.citebd.org. Comme je vous disais, vous n'hésitez pas, musée 05 45 38 65 63, si vous voulez... les avoir en direct. Vous n'hésitez pas à aller regardez sur le site internet à l'agenda des manifestations, puisqu'il y a plein de propositions et de moments où vous pouvez avoir des visites guidées, des rencontres, des animations, des conférences et des choses comme ça, où vous pourrez peut-être rencontrer Anne-Hélène Hoog, qui sera peut-être présente sur certaines de ces animations. Donc on n'hésite pas, on va être obligé de se quitter. Merci beaucoup Anne-Hélène d'avoir
merci
été présente avec
nous.
Merci à
vous de m'avoir reçu, c'est un plaisir.
Et je crois qu'il faudra qu'on refasse une autre émission tellement je pense que vous avez plein de choses à nous raconter. Voilà, si on avait pu faire encore plus long, on l'aurait fait avec plaisir.
À votre disposition.
Avec plaisir. On va rendre l'antenne. Nous, on se retrouve, Jérôme,
oui,
la semaine prochaine.
Exactement.
Toujours oui. Avec l'émission de l'Office de tourisme du pays d'Angoulême. Bien sûr, on retrouve toutes ces infos également sur le site de l'Office, hein, www.angoulême-tourisme.com. On a des nouveaux sites, donc vous n'hésitez pas, Facebook, Instagram, on a plein de trucs qu'on a créés pour retrouver toutes ces infos.
Ah là, ça pourrait y en avoir plein, il y en a plein. Tu as raison. Merci beaucoup pour votre venue dans les studios. J'espère à une prochaine pour encore d'autres événements comme celui-ci. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver tous les podcasts de l'Office du Tourisme sur le site internet de Radio Attitude au www.attitudefm.com mais aussi sur notre page Facebook Radio Attitude FM. Excellente journée, très bon week-end à vous tous et à la semaine prochaine.